à Washington.
Bonsoir, Jacques Aristide avec vous en direct de Washington. Content de vous retrouver en ce mercredi 7 février 2018 à la une ce soir. Au Tchad, 10 partis d'opposition suspendus pour troubles à l'ordre public. L'ONU demande un procès équitable en RD Congo pour un officier déserteur anti-Kabila. En Afrique du Sud, le sort du président Jacob Zuma fixé dans les prochains jours. Israël se prépare à expulser des milliers de migrants africains entrés illégalement dans le pays. Dans la partie magazine, pourquoi les Nigérians se ruent vers les monnaies virtuelles ?
L'Afrique a connu ces dernières décennies des dévaluations en fonction de leur monnaie, ce qui a certainement créé des conflits ou une perte de richesse pour les monnaies des pays africains.
L'intégralité de cette interview tout à l'heure, et ne manquez pas non plus vos rubriques habituelles, la Minute Éco et la page sportive. 10 partis d'opposition tchadiens qui avaient soutenu un appel à manifester des syndicats ont été suspendus pour 2 mois pour trouble à l'ordre public et incitation à la violence. C'est ce qu'affirme dans un communiqué aujourd'hui le ministre de la Sécurité, Ahmad Mahamat Bachir, qui avait averti hier que les partis qui tenteraient de défier l'autorité de l'État seraient suspendus. La mission des Nations Unies au Congo, la MONUSCO, veut la tenue d'un procès équitable pour un colonel déserteur de l'armée congolaise. Aux arrêts à Kinshasa après son extradition de la Tanzanie. John Chibangu a été extradé vers la RDC depuis la Tanzanie après avoir menacé de chasser dans les 45 jours le président Joseph Kabila du pouvoir. En Guinée, les autorités appellent au calme après la mort de 7 personnes dans des violences après les premières élections locales depuis 2005. Le point avec Morgane Guériec.
La Commission électorale nationale indépendante invite les acteurs politiques et les candidats à faire preuve de retenue dans l'attente des résultats. La CENI appelle également les services de sécurité à travailler davantage pour l'instauration d'un climat de paix. De son côté, l'ONU regrette les récentes violences qui ont occasionné des pertes en vie humaine. Le calme était revenu ce matin à Conakry où des manifestants de l'opposition ont bloqué hier la circulation dans plusieurs quartiers de la banlieue pour exiger la publication des résultats, accusant le pouvoir de vouloir les modifier en sa faveur. La CENI, seule instance habilitée à proclamer les résultats, a promis de les publier d'ici la fin de la semaine. D'après les autorités, 5 nourrissons ont péri mardi dans un incendie volontaire à Kalenko. Les précédents scrutins en Guinée, les présidentielles et les législatives, ont été émaillés de violences et d'accusations de fraude.
Au Sénégal, le procès du maire de Dakar et de ses collaborateurs, jugés pour détournement de deniers publics, se poursuit à la barre. Khalifa Sall a déclaré que l'État sénégalais avait, dès son origine, toléré et même souhaité l'existence de fonds politiques échappant aux règles comptables habituelles au sein de la mairie de Dakar. Si l'État n'était pas partie prenante, ça n'aurait pas fonctionné, a ajouté le maire, qui est en détention provisoire depuis mars dernier. Il doit répondre avec 7 de ses co-prévenus de dépenses d'1,8 milliard de francs CFA prélevés sur plusieurs années dans les caisses de la mairie de Dakar. Khalifa Sall, potentiel concurrent du président Macky Sall, a qualifié son procès de politique. Au Burundi, un journaliste a été menacé de prison après la diffusion d'un reportage sur la grogne des enseignants de la province de Ruhigi, dans l'est du pays. Ces enseignants protestent contre une double contribution volontaire au financement des élections générales de 2020. Jean Bosco Nshimirimanan, de la radio privée Isingarino, a été sommé aujourd'hui par le gouverneur Abdallah Hassan de ne plus publier d'informations relatives à cette province lors d'une rencontre en présence du chef local du très redouté Service national de renseignement, le NSR, qui dépend directement du président Pierre Nkurunziza. Cyril Ramaphosa, le président de l'ANC, parti au pouvoir en Afrique du Sud, a déclaré aujourd'hui être en discussion directe avec le chef de l'État, Jacob Zuma, pour négocier les termes de sa démission et assurer la transition à la tête du pays. Dili Diko.
Hier soir, le président Jacob Zuma et moi-même avons entamé des discussions directes sur la transition et les questions liées au poste de président de la République, a déclaré Cyril Ramaphosa dans un communiqué. Il a ajouté que Jacob Zuma et lui seront en mesure de rendre compte au pays dans les prochains jours. Monsieur Ramaphosa a également estimé que les discussions ont été constructives et ont permis de poser les fondations d'une résolution rapide de la situation. Le numéro 1 de l'ANC s'est dit conscient que l'incertitude liée au poste de chef de l'État est une source d'inquiétude pour les Sud-Africains. Depuis l'élection de Cyril Ramaphosa à la tête du parti au pouvoir, la pression monte pour obtenir le départ du président Zuma, cité dans plusieurs affaires de corruption.
Également, dans l'actualité africaine, l'armée nigériane va envoyer des troupes dans les états du centre du pays pour mettre fin aux violences entre agriculteurs et éleveurs qui ont fait des centaines de morts ces dernières semaines. Le déploiement de l'armée, qui doit commencer le 15 février, vise à enrayer les affrontements entre éleveurs et paysans et les attaques contre des membres innocents de nos communautés par des milices armées, en particulier à Benue, Taraba et Nassarawa, écrit dans un communiqué le général David Amadou. Au Kenya, le président de la Cour suprême dénonce le récent mépris des autorités vis-à-vis de plusieurs décisions de justice. Le point avec Chérubin Dorsil.
Le juge David Maraga est célèbre depuis sa décision historique d'annuler le résultat de la présidentielle du 8 août dernier et d'ordonner un nouveau scrutin. Il a rompu le silence suite au non-respect de plusieurs décisions de justice après l'investiture symbolique de l'opposant Raila Odinga comme président du peuple. La police kenyane a refusé d'obéir à deux ordres séparés de libérer sous caution l'opposant Miguna Miguna. Il a finalement été expulsé hier vers le Canada. Par ailleurs, l'autorité des communications a traîné les pieds pour appliquer partiellement une autre décision. La justice avait ordonné la levée de la suspension d'antenne pour 4 chaînes de télévision. 2 chaînes ont repris leurs émissions lundi, pendant que 2 autres sont toujours interdites de diffusion. Pour le juge Maraga, désobéir à une décision de justice représente une violation de la Constitution et menace l'état de droit. La réélection du président Uhuru Kenyatta en 2017 a été accompagnée de plusieurs mois de troubles qui ont fait au moins 92 morts au Kenya.
Le président du principal parti d'opposition au Zimbabwe, Morgan Tsvangirai, a chargé un de ses adjoints, Nelson Chamisa, d'assurer son intérim le temps de son traitement pour un cancer dans un hôpital d'Afrique du Sud. Âgé de 65 ans, Morgan Tsvangirai a annoncé il y a 2 ans qu'il souffrait d'un cancer du côlon pour lequel il effectue de nombreux séjours médicaux dans des hôpitaux sud-africains. Les médias locaux ont fait ces derniers jours état d'une détérioration inquiétante de sa condition.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Je vous le disais en titre, Israël se prépare à expulser des milliers d'Érythréens et de Soudanais entrés illégalement dans le pays et qui n'ont pas de demande d'asile. Ils doivent partir d'ici au 1er avril ou aller en prison. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
Israël n'a pas dévoilé les pays qui vont accueillir ces migrants qui doivent être expulsés, dont la plupart sont originaires de l'Érythrée et du Soudan. Les organisations d'aide aux migrants parlent de l'Ouganda et du Rwanda comme leur future terre d'accueil, mais Kigali et Kampala ont démenti tout accord avec Israël. Les autorités israéliennes distribuent des lettres aux migrants pour renouveler leur permis de séjour de 2 mois. Pour le moment, le document est adressé uniquement aux hommes. Ils ont 60 jours pour quitter le pays avec un pécule de 3 500 $. Ce plan d'expulsion est désapprouvé par le HCR et des survivants de l'Holocauste qui estiment que leur pays a le devoir de protéger les migrants. D'après le ministère de l'Intérieur, 42 000 migrants africains vivent en Israël. Plus de 15 000 ont demandé l'asile, 6 600 dossiers ont été traités et seulement 11 ont reçu une réponse favorable.
Dans le cahier international toujours, en Syrie, des dizaines de civils ont été tués aujourd'hui dans des frappes aériennes visant la Ghouta orientale, une enclave rebelle près de Damas. Plus de 130 civils, dont des femmes et des enfants, sont morts en 3 jours de bombardements aériens. L'un des pires bilans en 7 ans de conflit. Ces frappes sont menées alors que le régime de Bachar al-Assad est sous forte pression après des accusations ces dernières semaines sur son recours à des armes chimiques, notamment du chlore dans des attaques contre des régions rebelles. L'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques dit étudier toutes les allégations crédibles sur un tel recours, malgré des démentis répétés du pouvoir syrien. Une vaste opération pour déloger des djihadistes du groupe État islamique encore présents sur le territoire irakien a commencé aujourd'hui dans une région désertique aux confins des provinces de Salahedin et Kirkouk. L'opération actuelle est appuyée par l'aviation irakienne et celle de la coalition internationale. Aux États-Unis, à la veille d'une nouvelle date butoir, un accord entre majorité républicaine et opposition démocrate est attendu aujourd'hui au Congrès pour éviter une nouvelle paralysie, mais aucune régularisation de jeunes clandestins ne devrait finalement faire partie du compromis immédiat. Le président Donald Trump a affirmé hier qu'il préférait un shutdown à tout accord budgétaire qui n'inclurait pas ses demandes d'un durcissement des lois sur l'immigration. La Maison-Blanche a corrigé le tir immédiatement. Nous ne poussons pas pour une paralysie, d'après sa porte-parole Sarah Sanders. Voilà pour les nouvelles qui dominent l'actualité africaine et mondiale ce soir. Sans plus tarder, un tour d'horizon de l'actualité économique en Afrique. Il est l'heure de la Minute Éco avec Eric Manerakiza.
Le Cameroun compte lever 96 milliards de francs CFA auprès des banques locales pour l'exécution du budget 2018. D'habitude, ce genre de fonds sert au financement de certains projets et à oxygéner la trésorerie de certaines entreprises publiques. L'Ouganda a besoin de 388 millions de dollars pour relancer sa compagnie aérienne National Uganda Airlines avant octobre 2018. Des patrons français et algériens ont créé un conseil d'affaires algéro-français. Il servira de cadre de travail pour favoriser un échange régulier entre les deux centrales patronales. Une soixantaine de chefs d'entreprise français est à Alger. Ces patrons réclament une plus grande clarté dans la simplification des procédures douanières et de clarification sur les exigences à l'importation. Le Parlement éthiopien a adopté une hausse du budget fédéral de 511 millions de dollars pour l'exercice 2017-2018. Ce budget additionnel sera affecté au fonds consacré à la jeunesse, à l'amélioration des capacités d'accueil de l'université d'Addis Abeba, à l'acquisition d'équipements pour le programme de numérisation du système de télé et radiodiffusion dans le pays, au soutien des personnes touchées par les catastrophes naturelles et aux institutions gouvernementales qui sont confrontées à des difficultés budgétaires.
Il est l'heure maintenant d'un condensé de l'actualité sportive. Nous retrouvons Nicolas Pineau. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Jacques, bonsoir à tous.
Les joueurs africains les mieux payés de la Ligue 1.
Oui, le journal L'Équipe qui publie une enquête annuelle sur les salaires des joueurs de la Ligue 1. Si le Paris Saint-Germain domine largement le classement global établi par le quotidien sportif, avec 9 joueurs dans les 10 premières places, deux internationaux africains se glissent dans le top 30. Le Sénégalais de l'AS Monaco, Keita Baldé, 22e, salaire brut mensuel 340 000 euros. Et le Burkinabé de l'Olympique Lyonnais, Bertrand Traoré, 24e, salaire mensuel 300 000 euros. Ça fait rêver.
Le Bayern en demi-finale de la Coupe d'Allemagne.
Le Bayern Munich qui s'est qualifié hier soir en atomisant Paderborn, 6 buts à 0. Ce club est pensionnaire de la 3e division allemande. Finaliste malheureux la saison dernière en Coupe d'Allemagne, le club allemand est le plus titré dans cette compétition avec 18 victoires. Le Bayern Munich n'a pas fait de sentiment face aux petits poussés de la compétition. Les Français ont marqué Coman, Tolisso ou encore Franck Ribéry qui est rentré à 10 minutes de la fin pour inscrire son but grâce à une passe décisive de Robben.
Un nouveau sélectionneur pour l'équipe de rugby du Zimbabwe.
L'ancien sélectionneur de l'Afrique du Sud, Peter de Villiers, a été nommé à la tête de l'équipe du Zimbabwe, où il succède à Cyprian Madenge. C'est ce qu'annonce la Fédération zimbabwéenne de rugby. De Villiers, c'est le premier sélectionneur noir de l'histoire des Springboks entre 2007 et 2011. Il a signé un contrat de 2 ans. On rappelle que le Zimbabwe a déjà participé à 2 Coupes du Monde de rugby en 1987 et en 1991, sans y remporter la moindre victoire.
NBA, championnat de basket nord-américain.
Dans un match au sommet de la conférence Est, Toronto a dominé Boston sans à 91, tandis que Cleveland tombe pour la 22e fois de la saison, 116-98 contre Orlando. James Harden a franchi le seuil des 15 000 points marqués en NBA grâce à ses 36 points marqués lors de la victoire de Houston face à Brooklyn, 123-113. Et puis les Golden State Warriors se sont inclinés face à Oklahoma City, 125-105.
Merci bien Nicolas.
Bonjour, c'est Nicolas Pineau. Tous les lundis soirs, VOA Afrique met le sport à l'honneur. Les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs, rendez-vous en direct dans Sporama 19h, temps universel. Pour participer, c'est très simple, vous pouvez nous appeler en direct ou laisser vos commentaires et numéros de téléphone sur notre page Facebook. À très vite, sur le terrain de VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Oui, vous l'avez compris, c'est la deuxième partie du Monde aujourd'hui et il est l'heure d'aborder notre tranche magazine avec vous, toujours notre producteur Sims Loumami et notre ingénieur Head Cook, Jacques Aristide au micro sur VOA Afrique, émettant de la capitale américaine. Eh bien, au Cameroun, inquiétude dans les rangs des avocats des 47 personnes extradées récemment du Nigeria, parmi lesquels Ayoub Tabé, leader des séparatistes anglophones. Ses avocats affirment n'avoir aucune nouvelle de leurs clients. Cette situation provoque également de vives critiques de la part des défenseurs des droits de l'homme au Cameroun. Pendant ce temps, la tension ne cesse de monter en zone anglophone depuis l'annonce de ses extraditions. Correspondance à Yaoundé d'Emmanuel Julentap.
À Yaoundé, c'est l'inquiétude qui a gagné le camp du collège d'avocats devant assurer la défense des 47 personnes extradées du Nigeria. À 4 reprises, ceux-ci ont tenté en vain de rencontrer les 47 sécessionnistes. Maître Claude Assira, l'un des 4 avocats du dit collège.
Je doute fort que l'identification de ces personnes ait été faite et qu'ils puissent être aujourd'hui indiqués avec précision ce qui peut être reproché à l'une ou l'autre de ces 47 personnes, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a rien, ni a fortiori qu'il puisse y avoir une documentation de ces reproches et griefs éventuels. Voilà, par conséquent, on est tous dans le flou total. Je doute fort que les autorités de poursuite soient elles-mêmes plus renseignées que nous. Et c'est regrettable que nous n'ayons pas la possibilité d'accéder à ces personnes. Il est dommage pour la vérité qu'elles prennent des chemins aussi tortueux.
Le lieu de détention des 47 est toujours tenu secret. Le gouvernement camerounais a démenti cependant le 2 février dernier les rumeurs d'exécution extrajudiciaire des concernés. Il a en outre affirmé que ceci était en exploitation par la police judiciaire. Une démarche que critique Maximilien Ngombe, directrice exécutive du réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale, basée à Douala, au Cameroun.
Vous dites qu'ils sont en exploitation. On ne sait pas si c'est le procureur de la République, on ne sait pas si c'est le commissaire du gouvernement. On est dans un pays de droit.
En zone anglophone, la peur et la colère dominent désormais les esprits des populations depuis l'extradition des sécessionnistes arrêtés au Nigeria. C'est du moins un avis que partage Dr Hilaire Kamga, porte-parole de la plateforme pour la société civile, un militant des droits humains qui a séjourné en zone anglophone pendant ces 10 derniers jours.
Les populations sont en colère, colère contre la République du Cameroun, colère contre les extrémistes séparatistes aussi. En colère aussi contre la gendarmerie et les forces spéciales, parce qu'on n'arrive pas à comprendre pourquoi tout le monde peut être d'office considéré comme potentiel terroriste. Chaque jour qui passe, il y a des gens qui sont tués.
C'est devant le tribunal militaire de Yaoundé que Ayoub Tabé Sissoukou et 46 autres sécessionnistes devraient passer à la barre et encourent la peine de mort. Une option des pouvoirs publics, globalement soutenue à Yaoundé par la population.
Ils doivent vraiment subir une justice très ferme.
On ne négocie pas avec les terroristes. Regardez combien de familles ont perdu, des gens sont en deuil au jour d'aujourd'hui par leurs propres frères.
Lundi dernier, le département d'État américain a demandé aux autorités camerounaises de respecter le droit à une procédure judiciaire en bonne et due forme pour les 47 personnes extradées du Nigeria vers le Cameroun. Yaoundé, Emmanuel Julentap, VOA Afrique.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
La communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest a annoncé des sanctions contre 19 personnalités bissao-guinéennes, dont des proches du président José Mario Vaz. La CDAO les accuse de non-respect d'un accord de sortie de la crise politique. La Guinée-Bissau traverse des turbulences politiques depuis la destitution en août 2015 par le président Vaz de son premier ministre Domingos Simoes Pereira. Pour analyse, Abdourahmane Nadia a joint à Paris le spécialiste de la Guinée-Bissau à l'International Crisis Group, Vincent Fouchère.
On a déjà l'expérience de sanctions en Guinée-Bissau. Après le coup d'État de 2012, il y avait eu des sanctions qui avaient été prises. Elles n'avaient pas forcément marché dans l'immédiat, mais c'est vrai qu'elles avaient quand même eu un impact, disons, de moyen terme, en assouplissant un peu la position des militaires. Est-ce que ce sera la même chose ? Les hommes politiques concernés sont des gens qui sont quand même beaucoup plus internationalisés que les militaires de 2012. Des gens qui voyagent, des gens qui ont des maisons, des comptes en banque, en dehors du pays aussi. Donc peut-être que ça va les toucher. Ceci étant dit, on est quand même dans quelque chose qui est une lutte vraiment très très tendue pour le contrôle du PIGC, pour le contrôle de l'État.
Est-ce qu'on peut dire que la CEDEAO a été irritée après tant d'années de patience avec les multiples médiations de l'ancien président nigérian Obasanjo ?
Oui, alors c'est vrai que la CEDEAO est un peu en charge du dossier depuis 2012. Elle y a perdu quelques plumes d'ailleurs à un moment. Et puis maintenant, elle commence à être un peu lassée. Elle a porté donc les accords de Conakry de 2016 là, qui étaient censés offrir une piste de résolution à la crise politique. Mais ces accords ne sont pas appliqués et la CEDEAO s'agace. Et la CEDEAO cible assez précisément un camp, hein, le camp du président de la République, José Mario Vache.
Et justement, quel est le rôle de l'armée dans tout cela? C'est vrai que depuis 2012, on n'a pas connu de coup d'État, mais c'est un pays quand même qui a vécu plusieurs coups d'État, donc l'armée n'est jamais très loin.
Oui, alors l'armée a été échaudée par la suite de 2012, hein, par les conséquences du coup d'État et la pression internationale. Par ailleurs, il y a une petite force de la CEDEAO qui compte environ 500 hommes. Et puis on a vu avec l'affaire Gambienne, hein, que la CEDEAO quand même pouvait représenter éventuellement une force militaire le cas échéant. Donc du côté de l'armée, on a une volonté d'essayer de jouer le jeu, hein, de ne pas perturber le jeu démocratique, en tout cas pour le moment. Ceci étant dit, il y a eu en décembre, hein, l'annonce de l'arrestation de plusieurs militaires de rang intermédiaire pour un projet d'assassinat contre le chef d'état-major. Donc on peut encore imaginer, c'est une armée très factionnalisée, hein, dans laquelle un certain nombre d'hommes politiques ont des connexions. On peut imaginer à un moment ou à un autre que des morceaux de l'armée... c'est toujours évidemment une possibilité à Bissau.
Pourquoi le président Vaz n'arrive pas à contrôler l'État et le parti PAIGC en Guinée-Bissau? On a vu plusieurs premiers ministres défiler depuis 2012.
En fait, on a un système qui est un petit peu bicéphale, hein, avec un Premier ministre qui est quand même très fort et qui contrôle la gestion de l'État au quotidien, et puis un président qui a quand même des pouvoirs assez significatifs, notamment la nomination du procureur général, enfin toute une série de pouvoirs.
On écoutait Vincent Fouchère de l'International Crisis Group qui était en ligne de Paris.
Bonjour à tous, c'est Kiabadou avec vous et je vous donne rendez-vous à 18h en temps universel dans votre émission interactive À votre avis. La polygamie, elle est illégale dans certains pays, mais la polygamie est pratiquée dans de nombreux États africains. Est-ce que vous soutenez cette pratique et pourquoi? Laissez vos numéros et commentaires ou appelez en direct à 18h en temps universel au 001 202 205 26 33. Rendez-vous également sur notre site www.voafrique.com.
Alors je vais vous demander d'être un petit peu attentif maintenant parce que nous allons parler de quelque chose d'un peu technique. Il s'agit de Bitcoin. Alors malgré la récente chute de la monnaie virtuelle, connu comme Bitcoin, les Nigérians continuent d'utiliser de telles crypto-monnaies. Le pays pétrolier de 190 millions d'habitants est d'ailleurs le troisième détenteur de Bitcoin au monde en pourcentage du PIB derrière la Russie et la Nouvelle-Zélande, d'après un rapport publié en décembre par la banque américaine Citigroup. Pour un éclairage, parce qu'on en a besoin évidemment, Ekiya Badou a joint à Paris Sheikh Isaac Kone, investisseur dans le Bitcoin.
L'Afrique a connu ces dernières décennies des dévaluations en fonction de leur monnaie, ce qui a certainement créé des conflits ou une perte de richesse pour les monnaies des pays africains. Donc l'arrivée du Bitcoin est déjà une révolution en soi, et encore plus pour l'Afrique. C'est une opportunité, et par le futur, ce sera vraiment une révolution.
Alors une opportunité, une révolution, il y a des jetons virtuels, le token, qui peuvent servir à acquérir des bons d'achat. Il y a même la société Surremit qui a mis sa propre crypto-monnaie. Qu'en pensez-vous?
La concurrence, elle peut être positive pour les clients, mais en même temps, ça peut être un piège. Pourquoi? Parce que le but principal des tokens, un token, il est spécial, on dit qu'il est spécial, qu'il va rapporter beaucoup d'argent, dans le sens où il a une particularité spéciale pour
la population pour l'environnement, d'accord ? Si un token n'a pas de particularité, il ne vaudra rien. Ce sera peut-être, admettons, s'il part de zéro lorsqu'on lance le token, il arrive à 10 centimes et après il redescend et il meurt, ça ne sera pas un avantage pour les populations. Donc je pense que derrière ce mot token, il y a des scammers, ce qu'on appelle des scammers, des gens qui veulent voler l'argent des contribuables, de la population, lancent, comme partout, comme toute industrie, il y a des scammers, ils lancent des faux tokens pour pouvoir attirer ceux qui justement ne connaissent pas ces nouvelles monnaies qui sont en train d'arriver, ils veulent entre guillemets les arnaquer.
Alors par rapport à l'arnaque justement, les détracteurs parlent de manque de régularisation. Comment rassurer les futurs acquéreurs ?
Je pense déjà que la particularité du Bitcoin, c'est que justement il est dérégulé. Donc si on parle de régulation, c'est comme si on retournait dans le système des monnaies fiat que l'on voit actuellement. Le mot régulation, c'est, je pense, un piège que les différents gouvernements dans le monde sont en train de créer.
Alors, comment légiférer dans ce cas pour avoir plus de sécurité ?
Pour avoir plus de sécurité, je pense que les systèmes comme Visa et Mastercard devraient travailler en étroite collaboration avec le Bitcoin et toutes les grandes crypto-monnaies pour essayer justement de sécuriser les transactions. Je pense que c'est, à mon avis, la seule solution pour l'instant.
Alors on verra comment ça va se passer pour les Nigérians. On écoute Cheikh Isaac Kone, investisseur dans le Bitcoin.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
Paris réussit pour Elon Musk, le fondateur milliardaire de SpaceX qui rêve de coloniser la planète Mars. Sa compagnie a lancé hier la fusée la plus puissante du monde, la Falcon Heavy, entamant ainsi sa première mission historique en direction de Mars. Pour une analyse sur la conquête de l'espace, Nathalie Barge a joint à Cambridge l'astrophysicien Didier Queloz.
Ce qui est assez spécial dans cette fusée, c'est qu'on retrouve une fusée aussi puissante que les fusées qui avaient été développées pour le programme Apollo. C'est-à-dire que c'est des fusées qui peuvent emmener des grandes quantités de matériel relativement loin dans le système solaire. Alors l'ambition affichée du programme, c'est d'amener des gens, et pas uniquement une ou deux personnes, hein, vraiment de coloniser la planète Mars. Et c'est cette partie qui est absolument fascinante dans ce programme, parce que jusqu'à présent, tout ce qu'il dit, il le fait, Monsieur Musk. Donc on peut bien imaginer qu'effectivement, il va aller sur Mars avec cette fusée. Donc on est vraiment à l'aube d'une conquête spatiale du système solaire actuellement.
Alors, le véhicule flottant dans l'espace, la décapotable rouge de Tesla, son épopée va durer combien de temps pour atteindre notamment la planète Mars ?
J'ai pas regardé exactement sa vitesse, mais les durées typiques pour aller sur Mars, c'est l'ordre de 6 mois. Mars, c'est vraiment très très loin comparé à la Lune. C'est vraiment une aventure épique, c'est une aventure extrêmement dangereuse. Donc, bon, là, vous envoyez un petit morceau de métal. On a déjà envoyé, même assez gros en l'occurrence, mais on a déjà envoyé pas mal de choses sur Mars. Hein. On a des petits robots qui se promènent à la surface, qui nous ont récemment envoyé d'ailleurs une image absolument spectaculaire. Mais simplement, c'est loin. Donc, quand vous avez des personnes qui vont voyager sur cette distance-là, vous imaginez la difficulté logistique, humaine, et puis alors le voyage est extrêmement périlleux parce que vous êtes en dehors de la protection du champ magnétique de la Terre, donc en gros vous êtes soumis aux radiations solaires les plus intenses, donc là vous êtes seul face au soleil.
Donc en fait Elon Musk, il a dit que Starman, il avait passé ce cap-là, il me semble, hein. Et la planète Mars, est-ce que cette planète pourrait être habitable ?
Alors, lors de la formation du système solaire, Mars devait ressembler énormément à la Terre. Donc on sait que la vie sur Terre, on a des traces de vie sur Terre à peu près environ 1,5 milliard d'années après la formation de la Terre. Donc on se dit qu'il n'est pas exclu que la vie soit également quelque part sur Mars à ce moment-là. Maintenant, ce qui s'est passé après, Mars a perdu son atmosphère parce qu'elle est plus légère. Et puis on sait qu'il y a, en tout cas, il n'y a pas de vie à la surface. Mais il y a beaucoup d'espoir qu'il y ait des traces de cette vie. Et surtout récemment, on a mesuré des remontées liquides qui venaient des profondeurs de Mars. On pense que c'est de l'eau. On a vu en fait des coulées de boue. Tout en coup, ça réactive l'intérêt de se dire, mais en fait, s'il y a de l'eau dans les profondeurs, est-ce qu'il n'y aurait pas également de la vie dans les profondeurs? Donc pour moi, c'est l'intérêt énorme et d'envoyer des gens, se donner les moyens d'aller chercher la présence de vie sur Mars.
Et voilà, les Terriens à la conquête de Mars, peut-être des Martiens en perspective. On écoutait l'astrophysicien Didier Queloz de l'Université de Cambridge. Et voilà, point final à ce numéro du Monde aujourd'hui. Sims Loumami a dirigé la mise en onde. C'était Hud Cook à la technique. Merci, chers amis fidèles de la VOR. Je vous demande de rester bien branchés sur VOR Afrique parce que Henri Francisque arrive pour d'autres actualités. C'était Jacques Aristide à Washington. Très bonne soirée.
VOR.